12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Le livre des vies, c'est le titre des mémoires et c'est vrai qu'elle en a eu beaucoup de vies. L'autrice canadienne Margaret Atwood sera mon invitée à partir de 13h. Mais pour l'heure, il est question de critique cinéma dans cette première partie des midis avec Bugonia, le nouveau film de Yorgos Lanthimos qui retrouve l'actrice Emma Stone pour la 4e fois. Et puis le documentaire Je n'avais que le néant, Shoah par Lanzmann de Guillaume Ribault qui revient sur le processus de création de l'œuvre majeure de Claude Lanzmann, disponible sur Arte.tv et en salle. Aujourd'hui, vous écoutez les midis de culture, mais il y en a là-dedans. Et je vous présente les critiques du jour. Charlotte Garçon, rédactrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma, bonjour.
Bonjour Marie.
Philippe Azoury, journaliste, critique et auteur, et bonjour.
Bonjour Marie.
Yorgos Lanthimos est donc de retour avec Bugonia, film pour lequel il retrouve son actrice désormais fétiche, Emma Stone, à qui il en fait voir de toutes les couleurs une fois de plus. Elle incarne Michelle Fuller, PDG ultra cynique d'une firme pharmaceutique séquestrée par deux cousins, passablement demeurés et complotistes. Surtout, ils sont persuadés qu'elle est une extraterrestre. Le film est tiré de Save the Green Planet, un film sud-coréen sorti en 2003. Un des kidnappeurs est joué par Jesse Plemons, prix d'interprétation à Cannes pour Kind of Kindness, le précédent long métrage de Lanthimos. On commence avec un avis rapide en quelques mots, Charlotte Garçon.
Oui, je ne goûte toujours pas cette espèce de rencontre entre Ruben Östlund et Tim Burton, qu'est le cinéma de Lanthimos, mais bon, on y reviendra en détail.
Avec plaisir, Philippe Azoury.
Ça me fait rire parce que j'ai vu le film à côté de Charlotte, on essaie de rien dire, j'ai essayé de lire ses pensées, mais... je suis pas tombé exactement à côté.
Et quelques mots alors pour.
Alors quelques mots, sinon oui. Alors Bugonia, je sais pas si vous savez ce que c'est, ce que ça veut dire. C'est une technique apicole. C'est la naissance d'un essaim d'abeilles à partir d'un cadavre de bovin putréfié. Et c'est vrai que ce seul mot. Plus, effectivement, un cinéaste avec lequel j'ai moi-même également un peu du mal parce que il est sur le cynisme, il a un surplomb énormément sur ces sujets, sur les acteurs. J'avais très très peur. Et étrangement, c'est un film qui se trouve donne plutôt de bonnes nouvelles.
Bonnes nouvelles.
De Yorgos Lanthimos.
On écoute tout de suite la bande-annonce de Bugonia.
In the next 48 hours, the police and the FBI will begin a statewide manhunt. I'm a high-profile female corporate executive. I am crucial. In all humility, I can say that. Think of it like you abducted the governor, but worse. There is no possible scenario where you benefit from this incident.
C'est très fort. On pousse et emballé. J'ai fait des tonnes de recherches là-dessus. Vous tuez notre planète.
Saleté d'extraterrestre.
Je ne suis pas une extraterrestre.
Vous me mentez.
Quelle différence ça fait? Vous savez que c'est de la folie. Vous savez que c'est mal.
Je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous êtes.
Je vous connais aussi, Teddy.
Bugonia de Yorgos Lanthimos. Alors Charles Garçon, où est-ce que vous le situez entre Ruben Östlund et Tim Burton?
Non, c'est-à-dire que ça sent la fable, quoi.
C'est-à-dire être obligé de se défendre, d'être une extraterrestre. Bon, on a compris que c'était complètement absurde.
C'est-à-dire que la lutte des classes, effectivement, que les classes ne communiquent pas. Plus il y a d'ultra riches et plus il y a de rednecks ultra pauvres, on comprend que ces gens sont deux planètes, viennent de deux planètes différentes. Donc on voit tout de suite le côté allégorique de la chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est de littéraliser une allégorie et de voir comment concrètement, physiquement et en particulier dans le décor, les costumes et l'aspect des différents personnages, on arrive à mêler cela à une sorte d'hyper-réalisme. Là, il réussit parce qu'il est dans ce procédé qu'on appelle la vista-vision, c'est-à-dire c'est du 35 mm mais qui défile horizontalement et donc c'est comme si on avait du 70 mm. Enfin, c'est une pré- précision d'image qui est en elle-même très satisfaisante, d'abord à l'œil, mais qui donne aussi l'idée qu'il y a toujours un travail du détail voilà, croustillant, j'allais dire. Donc il y a une satisfaction pour moi qui est plus de l'ordre du décor. Alors il faut dire aussi qu'une grande partie du film est un petit théâtre de la séquestration, puisque une fois leur enlèvement perpétré, eh bien ils vont séquestrer la PDG dans une cave, et donc là le film resserre son décor uniquement à la cave, et on voilà, finalement je me demande si c'est pas ça qui est plus intéressant que les grandes idées qu'il brasse, parce que attention, c'est quand même du lourd au niveau des sujets. Donc je disais, voilà, les ultra riches versus la force de travail que le capitalisme emploie, et l'industrie pharmaceutique également, puisque et les alors je vais pas les néonicotinoïdes,
exactement,
voilà.
C'est sorti dans
je l'ai dit. Superbe. Et bien sûr l'apocalypse, tant qu'on y est. Donc bien sûr qu'il brasse énormément d'enjeux, et il les relie dans une sorte de mélange de genres dont il a le secret. Il faut lui reconnaître quand même un talent et une certaine virtuosité dans tous ses films, Yorgos Lanthimos. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il est quand même bridé par le fait qu'il fait un remake, enfin que donc le scénario n'est pas de lui, et que du coup les bizarreries scénaristiques auxquelles il nous habitue, elles sont un tout petit peu gainées,
d'accord,
et resserrées, notamment dans ce long moment de séquestration. Alors moi, le côté massacre à la tronçonneuse, j'aime pas non plus. En tant que spectatrice, c'est pas forcément ce que j'aime regarder, mais au moins il a champ libre sur le décor. Reste pour moi un fond absolument cynique. Bien sûr que les complotistes, ils ont tort, ils sont absolument des débiles tels que décrits, et en même temps, on sait très bien que sur le fond, ils ont raison. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le capitalisme, sinon un complot pour exploiter la force de travail des autres et faire le plus d'argent possible. Donc voilà, il y a quelque chose d'ultra lisible dans cette fable, et en même temps, j'avoue, de satisfaisant dans le détail, dans le décor, et bien sûr, et sans doute Philippe en parlera, dans le travail d'acteur, d'actrice, d'Emma Stone en particulier.
Alors Philippe Azoury, Emma Stone, tiens,
bon nom. J'ai l'impression que Charlotte lit davantage dans mes pensées que je ne lis dans les siennes, ce qui est très bien. Oui, c'est effectivement plutôt du côté des acteurs et surtout de l'actrice d'Emma Stone. Je trouve qu'il est en train de se passer une forme de mutation, quoi, chez Yorgos Lanthimos. On disait que c'était la quatrième fois qu'ils travaillent ensemble. Ça a commencé avec La Favorite en 2017, Pauvre Créature, bon, qui est un peu quand même son meilleur film en 2023, Kind of Kindness, qui est un film qui est passé un petit peu quand même inaperçu par rapport à son projet sur quatre histoires. C'est un peu embrouillé il y a un an. Et là, donc, ce film-là, plus on peut rajouter quasiment un cinquième film de collaboration, parce que c'est Eddington de Ari Aster, parce qu'Ari Aster est le producteur de Bugonia. C'est lui qui a trouvé l'idée de remplacer, parce que dans le film coréen originel, le PDG est un homme, c'est Aster qui a pensé à la femme. Alors, je ne sais pas si c'est Aster qui a amené Emma Stone, ou si c'est Emma Stone qui a amené Yorgos Lanthimos, mais il se trouve que voilà, ça commence à créer une petite famille qui est effectivement, enfin je suis comme Charlotte, c'est-à-dire j'ai toujours un peu peur, et avec Ari Aster et avec Yorgos Lanthimos, de quelque chose qui ne soit pas assez bridé, qui a un arbitraire des signes un peu tous azimuts, dans lequel en tant que spectateur, moi j'ai beaucoup de mal à trouver ma place, avec des jouissances aussi un peu dégueu à certains endroits avec lesquels il faut faire.
C'est-à-dire
Notamment, c'est intéressant sur le travail que Yorgos Lanthimos fait avec Emma Stone. Yorgos Lanthimos, c'est toujours plus ou moins acharné sur les acteurs. Je pense que c'est un de ces cinéastes il fait partie de ces cinéastes, en tout cas, qui pensent que c'est une idée, on ne sait jamais trop d'où elle vient, mais elle se répète comme ça dans l'histoire du cinéma. Il y a toujours des cinéastes qui pensent que les acteurs ont une jouissance secrète à se faire malmener. Et le film commence littéralement comme ça. Mais ce qui est intéressant, parce que vraiment, enfin, les 25 premières minutes, ou même peut-être un peu plus longtemps, et Emma Stone souffre beaucoup. Et nous, on souffre beaucoup pour Emma Stone. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est quand même qu'il se lie depuis 4 films, une forme de confiance entre deux, d'amitié, mais d'amitié du côté du personnage. C'est-à-dire que cette PDG, pas très très sympathique, évidemment, éminemment cynique, va beaucoup souffrir, mais rapidement, parce qu'elle est quand même très intelligente, et que ce qui a l'air d'intéresser Yorgos Lanthimos ici, c'est moins la méchanceté, comme c'est le cas habituellement, que l'intelligence. On se met être de son côté, ce qui est un truc très très assez habile et malaisant. Enfin, c'est ça qui c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que d'un coup il prend le truc par sa logique la plus impossible pour amener d'autres logiques qui sont tout aussi farfelues et finalement faire passer un truc qui est monumental, mais dont on dira rien. Et là-dessus, je trouve que ça ne peut se faire que sur ce travail de... C'est même plus de l'empathie. Enfin, je trouve qu'il y a un travail de co-création à partir de ce que Emma Stone peut lui proposer depuis 4 films. Oui. Là, il peut plus être dans cet acharnement-là. Et quant au fait, effectivement, que le film est lui-même déjà un remake, le fait que ça le bride, que ça le borde, enfin, à un moment donné, que ça retienne cette espèce de... Oui, voilà, de... d'agencement dont il est parfois capable, dont il était capable surtout dans la première partie de son œuvre, je veux dire à l'époque de Canine ou Lobster, où on comprenait rien, où il fallait subir ça. Ça, c'est beaucoup plus bridé, ça lui va mieux. Et du coup, il se retourne vers une espèce de film cerveau. On voit bien que la mort de Kubrick, la mort récente de Lynch, ça laisse une place. Bon, on n'y est pas encore, hein, le niveau était tellement haut. Mais malgré tout, il y a là un endroit pour lui, pour Yorgos Lanthimos, pour déployer quelque chose qui est quand même un peu plus intéressant que l'arbitraire habituel.
Charles Garçon.
Oui, alors, bon, là, moi, je parlais de Ruben Östlund parce qu'au fond, l'idée, c'est qu'on est dans Sans Filtre, par exemple, c'est que tout le monde était mis dans le même bateau, oui, quoi. Oui. C'est-à-dire les pauvres, les riches, en fait, ils ont, tout le monde est horrible, sous un chapeau de misanthropie. À la fin, c'est quand même aussi toujours, malgré tout, quand on y réfléchit, la conclusion de Lanthimos. Donc pour moi, là, il n'y a pas d'évolution véritablement. Et d'autre part, sur l'aspect plus Tim Burton, dans le sens de s'amuser avec la marionnette qu'est l'acteur et qu'est l'actrice, mais surtout la faire participer à cette jouissance dont parlait Philippe, ou la postuler. Et évidemment qu'Emma Stone, qui est coproductrice, qui est instigatrice du projet, elle est plus que volontaire là-dedans, hein, donc il n'y a aucune ambiguïté de ce point de vue-là. Mais alors, moi, ce que je trouve un peu paradoxal et qui me rend perplexe, c'est qu'en fait, dans tous ces films, les corps sont suppliciés. Alors là, on a une scène d'électrocution, enfin de gégène, voilà, pas possible. Enfin, ou de comment on appelle ça, d'électrochoc. Et on a l'impression que, moi j'ai l'impression qu'il veut faire rendre gorge au corps, c'est-à-dire que c'est une sorte de théâtre du corps, hein, de post-grotowskien, quoi, qui mettrait le corps de l'acteur au centre, et dont on est pour. Je veux dire, sauf que il y a un écran, et il y a une sorte d'écran, et que à force de le triturer, alors dans le film précédent, elle sortait son foie qu'elle mettait sur la table dans une sorte de référence à Prométhée. Il est quand même grec.
Charlotte, il est midi et quart.
Voilà. Oui, bon appétit.
Une tranche de foie.
Voilà, à force de dans Pauvre créature, c'était une créature à la Frankenstein qui était morte et qu'on
c'est des femmes à chaque fois, voilà. Quand même. Des canines de toute façon.
Voilà,
canines,
côté désarticulation de la femme, alors là aussi sous le mode du thriller, de la séquestration, voilà, à la fin, j'ai l'impression que ça rend tout le monde exsangue. C'est-à-dire que, en fait, au lieu d'être vraiment central et de donner une énergie à ce cinéma, ça le vide, quoi. Et c'est ce paradoxe-là que j'arrive pas bien à penser en tant que spectatrice, mais ça me rend plutôt indifférente, à tel point que ça me fait penser à la phrase récurrente, la plainte récurrente du redneck complotiste qui veut se venger. Bon, on dira pas les détails de pourquoi il veut se venger contre cette personne-là, cette PDG-là en particulier, mais il dit tout simplement « personne n'en a rien à foutre de nous », ce qui est la phrase, disons, de la working class trumpiste ou même en général. Et en fait, malheureusement, en tant que spectateur et spectatrice, moi j'ai eu l'impression finalement d'être aussi laissée à côté de ce petit théâtre qui s'agite beaucoup, qui a beaucoup de virtuosité, hein, je le dis encore, dans les décors et bien sûr, a priori, dans la théorie du jeu d'acteur, mais en réalité, c'est étonnant comme la centralité du corps arrive à quelque chose de désincarné. C'est ça que je trouve bizarre.
Philippe Azoulay.
Oui, mais il dégage quand même quelque chose cette fois-ci du côté de la logique, de l'intelligence, du cerveau ou d'un discours qui pourrait se renverser. C'est en ça que je trouve qu'il est... Le film est plutôt une bonne nouvelle. Je trouve que c'est plutôt pas mal... d'une certaine manière, pour moi, son meilleur film avec Pauvre Créature.
Et est-ce qu'on pourrait pas, du coup, opposer dans le cinéma américain d'aujourd'hui, ouais, un cinéma un peu à la papa, au bon comme au mauvais sens du terme, c'est-à-dire un peu familialiste, comme ça, on a reproché ça au cinéma de Paul Thomas au dernier film de Paul Thomas Anderson, qui parle de politique, mais un peu à l'ancienne, lien de filiation et tout ça, un peu gros sabots, mais finalement que moi, je préfère, plutôt que des espèces de ruses, des fables, des allégories, quelque chose de très détaillé, très raffiné au fond, dans le décor, dans la musique, parce que la musique, là, symphonique, un peu opératique, elle est vraiment intéressante dans ce film-ci.
Chappelle Roanne, ça, d'ailleurs, c'est ça, c'est longtemps, ouais.
Mais en même temps, à la fin, pourquoi ? C'est-à-dire que, tandis que je préfère le côté plus assumé en tant que gros blockbuster et finalement beaucoup plus humble du dernier film de Paul Thomas Anderson.
C'est intéressant que Charles le rapproche ou l'oppose au Paul Thomas Anderson, qui est un film que je trouve admirable, moi, pour moi, qui est un des plus beaux films de cette année, qui est un film bien meilleur que Bugonia. Mais je pense qu'en tout cas, tous les deux amènent cette possibilité, pour une fois, j'ai l'impression, de films où on ne sait pas exactement dans quelle mesure ils vont nous emmener, à quel endroit ils vont nous amener. Là où j'ai quand même l'impression, et l'un des gros défauts des films de cette année, même parmi les très très bons, c'est qu'une fois le cahier des charges exposé, les films sont souvent à mi-chemin, totalement en panne, et essayent vaguement de conclure sur un truc. Comme moi d'ailleurs, là en ce moment.
Allez, on conclut comme ça alors.
Là j'ai l'impression qu'ils ont quand même beaucoup plus, les deux ont un goût de la surprise et du renversement, du retournement qui peut les relier. Mais Paul Thomas Anderson est quelqu'un de beaucoup plus aimable, beaucoup plus intelligent et bien
meilleur. Merci Philippe. Bugonia de Yorgos Lanthimos en salle aujourd'hui.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
On enchaîne avec Je n'avais que le néant, Shoah par Lanzmann, un documentaire de Guillaume Ribaud disponible sur arte.tv en salle aujourd'hui. Le réalisateur s'est plongé dans les centaines d'heures de rush non utilisées par Claude Lanzmann au moment du montage de son œuvre monument Shoah, sorti en 1985. C'est donc un film sur un réalisateur au travail, sur 12 ans de cette enquête éprouvante, évidemment nécessaire, qui ont emmené Lanzmann à rencontrer des survivants des camps d'extermination et à dire l'indicible sans le montrer. Les commentaires sont essentiellement issus des mémoires du réalisateur. Le livre Le Lièvre de Patagonie. Quelques mots d'abord, Philippe Azoury.
Oui, c'est un... tout est dit dans le projet. C'est un film sur lequel il est très très difficile de vouloir apposer un commentaire ou chercher un point théorique. C'est un film qu'on suit, c'est un film dans lequel on se plonge, un film dans lequel on est... amené à prendre la place qui était celle de Lanzmann dans ce travail, jugé alors impossible au milieu des années 70, mais que Lanzmann a mené après 12 ans acharné, puis sur l'os, parce que je crois qu'à un moment donné, il n'y avait plus aucun argent pour produire ça, de réaliser, contre toute presque déontologie, c'est peut-être le vrai point théorique, peut-être ce qui a été peut-être l'un des deux, trois plus grands documentaires du siècle, sinon le plus grand documentaire du siècle.
Charlotte Garçon, en quelques mots.
Oui, je trouve que c'est un bon documentaire, finalement, pédagogique, même s'il a cette méthode bizarre de prendre à la première personne des mots de Lanzmann. Donc au début, on est un peu désarçonné. Mais pour moi, une bonne introduction à Shoah, et non pas l'inverse, c'est-à-dire d'aller chercher plus loin avec les rushs. Au fond,
c'est une préface.
C'est plutôt une préface, oui.
On écoute quelques instants de ce film tout de suite.
Kennen Sie Herr Raps?
Ja, das ist unser Nachbar.
Ja. Er hat ermordet 200.000 Juden.
La réalisation de Shoah a été une longue et difficile bataille. Je voulais filmer, mais je n'avais que le néant. Je suis très tôt que je ne ferai pas ce film sans que les tueurs y figurent aussi.
Aber bitte nennen Sie mir nicht meinen Namen.
Nein, nein.
Shoah est une course contre la mort. Bientôt l'histoire vivante sera devenue une histoire morte.
Das war der Verkauf.
Mes découvertes me faisaient rebondir d'un continent à l'autre. J'avais le sentiment de conduire une traque policière. Il fallait apprendre à tromper les trompeurs.
Je n'avais que le néant, Shoah par Lanceman de Guillaume Ribault. Je l'ai dit, le film est en salle, il est disponible sur arte.tv et il sera diffusé ce soir sur Arte à 22h35. On peut se demander, Shoah, c'est plus de 10 heures de film. C'est monumental, évidemment. Ouais. Donc on peut se demander ce que Guillaume Ribault est allé chercher en plus dans les rushs.
Il reste 220 heures, je crois, de rush donc il a travaillé. Ce qu'il va chercher précisément, c'est ce qu'on ne voyait pas dans Shoah, c'est-à-dire la difficulté à réaliser Shoah, la difficulté à même saisir ce qui est finalement la direction que va prendre Shoah. Ça, c'est la première partie qui est très très intéressante dans le travail de lien finalement ou de transmission que Ribault fait. Mais d'une certaine façon, tout est de Lanceman. Chaque image est de Lanceman. Chaque texte de la voix off est de Lanceman. Donc la place de Ribault, elle est à la fois effacée. Il vient puiser dans le chutier, disons, de Shoah. Et dans le chutier de Shoah, le film, on voit d'abord l'inintérêt la façon dont finalement dans un premier temps, même à New York, même à Tel Aviv, du côté de la communauté juive, la question de retouiller ça, faire parler, aller enquiquiner les gens pour leur demander qu'est-ce qui s'était passé, finalement en 73-74 ça n'excite pas grand monde et le film a cette première confrontation, mais surtout lorsque des gens se mettent à parler, ce qui est dit évidemment passionnant, mais ne suffit pas à Lanceman. Et finalement, le projet prend plusieurs années avant que Lanceman se réalise que le seul film possible, c'est celui qui est une confrontation avec l'impossible, c'est-à-dire avec même l'impensable. C'est-à-dire comment des généraux nazis, des militaires nazis, des petites mains finalement même, se mettent à être chevilles ouvrières d'une machine de mort impensable et abominable. Et comment ils vivent avec ça après ? Et comment ils s'en balancent, enfin, d'une certaine manière ? Comment ils se cachent de ça ? Sauf que, évidemment, vous n'allez pas taper à la porte d'un ancien nazi pour dire « Écoutez, je voudrais que vous témoigniez. Ben, allez-y, Claude, installez-vous, allumez la caméra, il n'y a aucun souci. » Ils se font chasser. Donc c'est ça, quand même, la première partie du film. C'est d'abord la constitution d'une idée et un échec. Ils se font chasser et où il faut trouver des ruses. Et c'est sans doute le point, bon, on en parlera sans doute après, enfin, genre voilà, comment on peut filmer contre son sujet et arriver, ce qui est à peu près le point déontologique sur lequel s'engueulent les documentaristes depuis des années, mais arriver quand même à faire le plus grand documentaire du siècle et peut-être le plus nécessaire à partir d'une image volée. Mais on peut voler les voleurs de vie, quoi.
Charlotte Garçon. Bah, on peut d'autant plus voler que donc le principe de Shoah, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est donc l'absence évidemment de reconstitution, hein, de reenactment, ce serait complètement obscène, même si en fait il va demander aux témoins parfois de refaire des gestes qu'ils faisaient. Donc c'est pas du tout du reenactment au sens qu'on prendrait des acteurs pour jouer une scène du passé. Bon, évidemment, donc pas de reconstitution et d'autre part pas d'archives. Et c'est là où c'est intéressant. Pourquoi pas d'archives ? Bah, principalement parce que l'entreprise de destruction des Juifs d'Europe impliquait la destruction de la preuve et jusqu'à la destruction de l'archive pour la postérité et jusqu'au démantèlement des camps, etc. Donc, toute une partie du Shoah consiste à revenir sur des lieux avec des gens qui sont des témoins, hein, pas seulement des bourreaux, hein, qui sont des survivants, tout en laissant à l'intérieur du film la présence, dont on l'a entendu dans l'extrait, de la mort. C'est-à-dire que la matière même de Shoah, c'est la mort, mais on a comme témoins que des gens, par définition, vivants. Et on a des lieux qui portent la marque de l'effacement total. On a des forêts qui ont recouvert des camps. On a donc, à partir du moment où l'entreprise nazie est une entreprise de falsification de la preuve et de l'archive, y compris le camp de Theresienstadt, camp vitrine, etc., comment on fait pour faire apparaître des choses dans le paysage qui sont invisibles, faire dire des choses à des gens qui font comme s'ils n'avaient rien vu, rien fait, etc. Et évidemment qu'il faut être rusé. Donc tout le film, c'est aussi son côté, disons, romanesque, là, dans ce making-of, c'est que ça devient une enquête, qui prend un faux nom, qui se fait passer pour un historien, qu'il y va avec sa remarquable collaboratrice Corinna Koulas, on entend aussi la traductrice dans Shoah, Francine Kaufmann, importante de ces femmes, un jour quand même, il faudra les remettre, Caroline Champetier aussi, assistante à l'image dans les années 70. Bon, voilà, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a un côté romanesque de cette écoute, de ce camion d'écoute, de cette caméra cachée et parfois, bien sûr que le film, j'allais dire, joue de ça. Mais en tout cas, le fond de cette mascarade, parfois, de ces mensonges et de ces côtés un peu espions, c'est la falsification nazie, c'est l'entreprise de destruction des archives. Ça, quand même, pédagogiquement, ce documentaire le fait apparaître. Même si là, quand vous passiez l'extrait, moi, j'étais un peu rétive à cette voix off, à la première personne, un peu sentencieuse, un peu, même si ça vient du livre de mémoire de Lanzmann. Mais Lanzmann, malgré tout, il construit aussi, sans le vouloir ou en le voulant, son propre monument à la fin de sa vie. Il se construit lui-même comme un monument. Donc ça, c'est pas du tout abordé par le film, puisque le film n'est pas du tout critique par rapport à Lanzmann. C'est pas l'objet.
Mais c'est vrai, c'est 200 et quelques heures de rush. Elles étaient entreposées à New York, personne n'en faisait rien.
Si, elles étaient mises en ligne, elles ont été mises en ligne. Il y a eu un colloque il y a deux ans au MAJ à Paris sur ces rushs avec les gens, avec notamment Francine Kaufmann, l'interprète, etc. Donc, c'est un monument historiographique.
Parce que Guillaume Ribault avait l'air de dire qu'on ne les utilisait pas beaucoup.
On ne les utilisait pas dans le grand public.
On peut estimer qu'elles dormaient d'un sommeil osirien, disons. Mais peut-être qu'effectivement il fallait un film d'une heure et demie pour rentrer dans le monument de 9h30 Quechua. Un sas comme ça de pédagogie ou une préface, tout simplement. Moi, c'est vrai que je vois le film comme une préface, mais c'est un film très très troublant, parce que je l'ai vu il y a à peu près 2 semaines, 3 semaines. C'est un film à la fois qui ne pose pas, peut-être pas assez de questions, mais c'est pas son objet, parce que son objet, c'est d'être immergé, qu'on soit immergé avec Guillaume Ribault et avec Lanzmann, et finalement dans cette histoire-là et dans cette fabrication-là. Et en même temps, c'est un film auquel je ne cesse de penser depuis 2 ou 3 semaines que je l'ai vu, sans qu'il agite d'autres questions théoriques que cette question de... En fait, ce qui revient en moi, c'est cette phrase, au moment qu'on entend, Guillaume Ribault prend cette voix off pour dire à la place d'Andman, je voulais te tuer avec la caméra. Qui est une phrase pas simple, parce que si on la place du côté de la supposée déontologie des documentaristes, c'est compliqué à assumer. Mais le sujet, la falsification, Charlotte en a parlé très très bien, le quotidien, la banalité avec laquelle ceux qui ont été les chevilles ouvrières de ça continuent de vivre, de danser, de boire des bières, de s'effacer eux-mêmes, de se fondre dans le paysage, fait que cette colère, elle devient légitime, et on comprend qu'il soit à la fois, comme une bombe. Il dit, j'étais une bombe prête à exploser.
Merci beaucoup Philippe Azoury, merci Charlotte Garçon. Et là, c'est la fin. En tout cas, Je n'avais que le néant, Shoah par Lanzmann, est visible tout de suite sur arte.tv ce soir à 22h35. Il y a Antoine Guillot recevra Guillaume Ribault dans Plan Large samedi.